Est-ce qu'il vous arrive de parler de spiritualité avec vos amis, avec vos voisins, vos collègues? Ah oui, je vois, oui, puis d'autres, hein? Moins souvent. Bah, c'est souvent des bonnes discussions. Quand je discute avec quelqu'un de la foi, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense de Dieu, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, souvent ce sont de bonnes discussions. Je vous encourage à en discuter avec vos amis, vos collègues, vos voisins. Et une chose qui ressort, c'est ce besoin de l'être humain d'être en contact avec une énergie positive, avec une force supérieure, avec les esprits de la lumière. Et si vous n'avez pas l'habitude de discuter avec vos voisins, eh bien pensez aux films. Dans les films, c'est assez clair. Il y a plein de films qui parlent de ça. Alors, si on pense quelques années en arrière, Avatar, hein, où on voit, où il y a cette scène où à un moment donné, le héros est sous un arbre, il y a des espèces de trucs lumineux qui viennent, et puis on voit, puis on dit, mais. Puis une personne à côté explique, mais ce sont les esprits de la lumière. Plus récemment, Star Wars, les derniers Star Wars. C'est impressionnant de voir qu'il y a cette force qui est là. Et puis, il y a plein d'autres films qui parlent de ça. Il y a des séries, on peut penser à La Reine des Neiges. Et il y a cette idée d'être en lien avec les esprits lumineux. Il y a cette volonté d'être en contact avec quelque chose qui dépasse notre lien, notre monde matériel. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de ce lien qui nous unit avec le monde spirituel. Et je vous propose que nous lisions en Colossiens 1, et pour commencer, les versets 12 à 14. Alors, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dieu, en Jésus-Christ, nous offre la possibilité d'avoir part à l'héritage des saints qui sont dans la lumière. Et ça, je me dis, ouais, ça, j'ai envie d'avoir part à cet héritage lumineux, de cette énergie positive. Et ces versets nous parlent tellement bien de la manière dont Dieu s'y prend pour nous rendre part de cet héritage. Il nous arrache des ténèbres et nous transporte dans le royaume de la lumière. Avant de rencontrer Dieu, nous étions dans les ténèbres. Une fois que nous l'avons rencontré, nous sommes dans la lumière. Et pour passer des ténèbres à la lumière, on peut imaginer que ce n'est pas une chose si facile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé le matin de vous réveiller puis d'ouvrir les yeux alors que la pièce est bien lumineuse. Vous n'avez pas fermé les stores, pas fermé les volets. Hein, les yeux, ça picote, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, c'est trop lumineux. Ou bien pensant à quelqu'un qui était enfermé dans un sombre cachot d'une sombre tour obscure où il n'y avait aucune fenêtre, à l'abri de la lumière pendant des jours, des semaines, des mois, enfin il est en train de croupir dans son trou. Et un jour, quelqu'un le prend et va le placer en pleine lumière. Et en plus, il y a de la neige. Donc c'est vraiment, c'est lumineux, on ne peut pas plus lumineux que ça. Que va-t-il se passer? Pardon? Il va fermer les yeux, ça risque d'être un réflexe naturel, effectivement. Et s'il laisse les yeux ouverts, il sera ébloui et probablement qu'il aura des problèmes aux yeux de manière durable. Et je crois que c'est quelque chose, on n'imagine pas, mais si on passe tout d'un coup de notre condition d'homme de ténèbres dans le royaume de lumière de Dieu, on risque d'avoir ce même effet, d'être ébloui, et puis finalement de notre condition première était meilleure que la condition deuxième, parce qu'au début on était simplement dans le noir, puis après on est aveugle, plus capable de voir la lumière. Et c'est pour ça que nous avons besoin que Jésus-Christ nous purifie et nous rende capables d'accepter cette lumière. Un autre exemple. Quand on veut faire un long voyage, en général, on prend l'avion, puis on arrive à destination et on est content d'arriver à destination. Enfin, ça, c'était avant le coronavirus, bien sûr. Mais il y a certains endroits où ce n'était pas tout à fait comme ça. Par exemple, Lhasa. Vous savez où c'est Lhasa? Au Tibet. C'est la capitale de la région autonome du Tibet. Et est-ce que vous savez quelle est la recommandation pour aller là-bas? C'est de prendre le train. Parce que Lhasa, c'est au Tibet, le Tibet c'est haut, c'est à 3650 mètres d'altitude, je crois, Lhasa. Donc si on arrive tout d'un coup à cette altitude en avion, eh ben, on peut faire un malaise parce que notre corps s'est pas habitué au changement d'altitude. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes encouragent de prendre le train, comme ça on monte gentiment et puis on peut s'habituer à l'altitude. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Il nous permet de prendre un chemin qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous rend capables de vivre dans la lumière. Alors autant pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, cette idée d'avoir part à ce monde spirituel lumineux est quelque chose d'alléchant, autant ce texte nous pose un problème. C'est qu'il y a un seul chemin pour aller dans les esprits de la lumière. C'est Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Un seul chemin pour pouvoir saisir cette promesse. Et ce moyen, nous dit la Bible, nous dit ce texte, c'est le Christ. La suite du texte, des deux versets qu'on a lu là, nous parle de Jésus, du Fils de Dieu. Qui est-il? Et pourquoi est-il le seul à nous offrir un accès au Père? Alors on va continuer la lecture en Colossiens 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Et il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ça me fait penser à un autre texte dans la Bible, qu'on trouve en Genèse, verset 1, chapitre 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et une image n'a de sens que lorsqu'elle reflète ce qu'elle représente. Imaginez une photo d'un sushi. La photo d'un sushi n'a de sens que parce que le sushi existe. Si le sushi n'existait pas, on pourrait vous montrer la photo d'un sushi, ça ne dirait absolument rien. C'est la même chose avec l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et ce qui fait son sens, eh bien, c'est qu'il reflète qui est Dieu. Un peu plus loin en Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan, sous forme d'un serpent, est venu tenter l'homme, créé à l'image de Dieu. Cette image qui n'a de sens que lorsqu'elle témoigne de qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mange du fruit et tu deviendras comme Dieu. Dieu promet à l'homme qu'il était créé à son image. Et finalement, l'homme mangera du fruit pour devenir comme Dieu, par ses propres forces, par ses actions. Il veut accomplir lui-même la promesse que Dieu lui avait faite. Il n'a pas compris qu'il était l'image de Dieu. Imaginez un miroir. Un miroir, ça peut être magnifique. C'est magnifique un miroir lorsque ça reflète quelque chose de magnifique. Mais lorsque le miroir reflète quelque chose de hideux, le miroir devient hideux. Comment le miroir par lui-même pourrait-il être beau sans refléter quelque chose de beau, en se détachant de ce qui le rend beau? Bien, l'homme, lorsqu'il a choisi par lui-même de vouloir être comme Dieu, eh bien, il s'est détourné de Dieu. Il a arrêté de regarder à Dieu et ce qui lui donnait son sens a été brisé. Et cela a des conséquences dans tous les domaines de la vie. Non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans nos relations avec les autres. Et pourtant, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose au fond de lui, malgré cette désobéissance qui reste et qui lui permet de donner un sens à sa vie. Il y a quelque chose au fond de nous qui continue à dire, mais on a besoin de quelque chose de plus, on a besoin de Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu, il a besoin d'un but. Et cela prend diverses formes. Depuis ce jour terrible où l'homme est coupé de Dieu, où il a perdu sa raison de vivre, eh bien, il est à la recherche d'une identité, à la recherche d'une raison de vivre, d'un but. L'homme souhaite donner un sens à ses aspirations. Vous savez, ce désir qui est au fond de nous, qui nous pousse à tenter l'impossible pour le trouver. Trouver l'amour pour être comblé. Avoir un chez-soi pour être attaché à un lieu. Avoir des enfants pour les aimer et que notre lignée continue. Avoir de l'argent pour posséder ce que nous désirons. L'homme recherche à combler ses désirs. Mais dans cette quête existentielle, on recherche plus que quelques pièces d'or. On recherche vraiment le sens de la vie. Et de tout temps, les hommes ont trois voies devant eux. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, la première voie, on pourrait se dire, mais alors il faut rechercher en nous quel est le sens de notre vie, et en nous, on doit pouvoir trouver cela. Et ça prend diverses formes. Tel homme va faire la guerre pour trouver la paix, tel autre travaille sans relâche pour devenir riche, tel autre se marie pour être comblé d'amour, tel autre médite et cultive son corps pour trouver un bon équilibre et se retrouver lui-même. Mais tous ces moyens ont un point en commun, c'est que par moi-même, je peux donner un sens à ma vie et je peux combler mes désirs. Et il y a une légende qui illustre très bien cet état d'esprit. C'est l'histoire de Narcisse. C'est une vieille histoire. Narcisse qui se trouvait tellement beau. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve tellement beau? On se regarde, exactement. On se regarde dans le miroir. Mais à l'époque de Narcisse, il n'y avait pas encore de miroir. Alors, il se penchait au-dessus d'une mare. Puis il voyait, puis il se retrouvait tellement beau. Puis il voulait toujours plus s'approcher de cette contemplation, de cette magnifique image. Et plouf, il tomba dans l'eau et se noya. C'est une triste histoire, hein, ça a donné le mot narcissique en français. Et je crois que quand on cherche un sens à sa vie, et qui serait déterminé en nous-mêmes, eh ben ce chemin finit au fond d'une mare. C'est un cul-de-sac, c'est quelque chose qui ne porte pas la vie. Un deuxième chemin qui est devant nous, c'est de se laisser tromper par Satan. Alors dit comme ça, ça ne fait pas du tout envie. On se dit, ce chemin-là, je ne vais pas l'emprunter. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Satan, il arrive quand même des fois à nous tromper. Parce qu'il va jouer sur la parole de Dieu. Et il va essayer de la faire un petit peu dire, mais oui, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment exactement comme ça? Comment est-ce qu'il arrive mes rêves? Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et il commence déjà par une petite subtilité, il remet en question la parole de Dieu. Et puis ensuite, il lui dit, mais si tu manges du fruit, tu seras comme Dieu. Et c'est perfide comme promesse que Satan fait. Parce qu'en fait, il est en train de jouer sur la promesse que Dieu avait donnée, créée à l'image de Dieu, et dire, mais cette promesse, tu peux l'accomplir par toi-même. Et au lieu de laisser Dieu agir, l'homme écoute Satan et veut agir par lui-même. Et en fait, on voit que Satan va utiliser toute une panoplie d'outils pour nous faire croire que la vie, la vérité, le chemin est ailleurs qu'en Jésus-Christ. Oui, Jésus est un chemin qui mène à Dieu, mais c'est un chemin parmi d'autres. Hein, la méditation, le bouddhisme. En adorant Allah, en vivant une vie pas trop mauvaise, on peut aussi arriver à Dieu. Ça, c'est des tromperies que Satan met aussi devant nous. Et le troisième chemin qui est devant nous, eh bien, c'est d'implorer le secours de Dieu, de reconnaître notre défaite, reconnaître qu'en nous-mêmes, nous n'arrivons pas à vivre en tant qu'image de Dieu. Comment pourrait-on combler ces désirs les plus profonds par nous-mêmes ou en étant trompés par Satan? Alors que notre vie fond comme peau de chagrin, comment est-ce qu'on pourrait être satisfait? On s'agite, on court. On se repose, on aime, on part, on oublie, on gagne, on perd. Mais le résultat est toujours le même. On retourne à notre insatisfaction. On a un iPhone 10, on veut un iPhone 11. On a une Peugeot, on veut une BMW. On a une femme, on en souhaite une autre. On a des enfants, on souhaite qu'ils partent. Les enfants partent, on souhaite qu'ils reviennent. On a du travail, on attend d'être à la retraite. On a la retraite, on a envie de travailler. Ou pire. Non, 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 non. Pire, des fois, on n'a rien de tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait combler nos désirs? Comment est-ce qu'on pourrait vivre avec la noblesse que requiert d'être l'image de Dieu sur cette terre? Nous n'avons pas d'autre choix que de nous tourner vers Dieu et d'implorer son secours. Et lorsqu'on lève les yeux vers Dieu, notre vie prend un sens différent. Dieu nous inspire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu est esprit, on sait bien qu'il est invisible, mais il a choisi de se révéler aux hommes et il a choisi de le faire en Jésus-Christ. Il ne s'est pas simplement contenté de nous créer à son image, mais en voyant que nous n'y arrivions pas, il a dit, mais je vais envoyer mon fils pour leur montrer ce que ça veut dire être image de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous avons ce modèle de l'image parfaite de qui est Dieu. Il a accompli parfaitement la vocation de l'humanité. Vous savez, la vocation, c'est ce désir dont je parlais tout à l'heure qu'on a au fond de nous. Ben, Jésus l'a parfaitement accompli. Il a été le représentant de Dieu sur terre. Il a rendu visible celui qui est invisible, le Tout-Puissant. Lorsqu'il était avec ses disciples, Jésus a répondu à Philippe, c'est en Jean 14, verset 8. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus a choisi de se révéler en envoyant son Fils. Ce n'est pas anodin. En envoyant Jésus, Dieu voulait montrer quelque chose de sa personnalité. En envoyant son Fils, Dieu voulait montrer qu'il était un Père. Et Dieu est un Père, non pas parce qu'il a créé l'homme, il est un père parce que ça fait partie de son identité la plus profonde, de toute éternité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça fait partie de son identité d'être père. C'est quelque chose qu'on a un peu du mal à concevoir, nous, êtres humains. Parce qu'à un temps, on n'était pas père, on a des enfants et on devient père. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas parce qu'il avait cet amour de père qu'il a engendré. Enfin, c'est... Comment dire? Dieu de toute éternité avait à cet amour de père en lui. Il n'y a pas un temps où il n'était pas père et puis un temps où il est devenu père. Jésus est le fils de Dieu de toute éternité. Ça fait partie de sa nature la plus profonde. Des fois, on se dit, mais c'est quand il a créé le monde que Dieu est devenu père, ou quand il a créé les êtres humains. Non, 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 ça fait déjà partie de ça bien avant. Et moi, je me dis, quand je pense à ça, que Dieu a voulu se révéler par son fils pour nous montrer qu'il est un père, je me dis, mais waouh, incroyable. Vous imaginez, on a un Dieu qui est père de toute éternité. Déjà avant de nous avoir, il avait ça dans son ADN, il avait ça dans son identité. Et c'est justement parce que cet amour débordant est là que ça a débouché sur quelque chose d'autre, ça a débouché sur la création, ça a débouché sur l'homme créé à son image. En envoyant son fils pour être son image sur terre, le fils témoigne de l'amour éternel qui habite en Dieu et qui se dégage hors de son être. Revenons à notre texte de Colossiens 1 et à notre question, Jésus, qui est-il? Alors, on a vu ce matin, peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Non, encore avant, juste celui d'avant, voilà. Les caractéristiques du Fils. En fait, il y a toute une série de caractéristiques qui sont données dans ce texte. Il est l'image de Dieu. C'est sur cette caractéristique qu'on s'est arrêté ce matin. Il est le premier-né de la création. Alors, premier-né, ça ne veut pas dire qu'il y a un temps où il était puis un temps où il n'était pas. Ça veut dire qu'il a la prééminence. Si vous faites une recherche dans la Bible de comment utiliser le terme premier-né, vous verrez que ce n'est pas une question de création, c'est une question ici de prééminence, de supériorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est en tout le premier. Toute la plénitude habite en lui. La réconciliation avec Dieu a été accomplie par lui. La paix a été faite par lui. Et quand on considère tous ces éléments, mais on se dit, mais oui, il ne peut y avoir qu'un chemin pour accéder à Dieu. Il ne peut pas y avoir plusieurs chemins. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne d'autre qui est venu de la part de Dieu comme Jésus l'a fait. Il n'y a que lui qui peut nous réconcilier avec Dieu. Alors, comment faire? Comment recevoir cet héritage des saints qui sont dans la lumière? Comment être au bénéfice de cette promesse dans nos vies? Je vous invite à aller encore quelques versets plus loin, Colossiens 1, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est ça le seul moyen. C'est Christ en nous. C'est le seul moyen de prendre part à cette promesse. C'est le seul moyen d'être en contact avec le monde spirituel lumineux, le monde qui vient de Dieu et pas de Satan. C'est Christ en nous. Et lorsque Jésus vient habiter en nous par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il y a quelque chose dans notre identité qui a été brisé, qui est reconstruit. Cette image qui n'était pas, ben voilà, on s'était détourné de Dieu et puis elle était plus qu'elle était, eh bien, elle est reconstruite par la présence de Jésus dans nos vies. Mais allons un petit peu plus loin. Il s'agit d'une espérance. C'est quelque chose qui n'est pas encore pleinement manifesté, mais qui est déjà visible. Il y a un jour, on va être transformé comme Christ lors de la résurrection des morts. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. En attendant, Il y a Christ qui habite en nous et qui rend visible cette glorieuse espérance. Mais par contre, cette identité est restaurée. Nous pouvons maintenant, par Jésus-Christ, être image de Dieu. Nous pouvons, comme lui, faire preuve d'amour envers notre prochain. Nous pouvons représenter Dieu sur terre. C'est ça, être image, c'est aussi être des représentants de Dieu sur cette terre. Représentants de ce Dieu qui est Père, qui a un amour libérateur, qui a un amour porté vers les autres. Et lorsque Christ vient habiter en nous, eh bien, il nous rend capables d'avoir cet amour envers les autres. Et je ne sais pas comment vous avez vécu votre relation avec votre Père. Des fois, ça se passe de manière merveilleuse, des fois, c'est un peu plus chaotique. Hein. Mais tous nos parents ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Et puis, ils n'ont pas été parfaits. Mais Dieu, il est parfait. Et quand on accepte Jésus, ce qui est incroyable, c'est que même s'il y a des choses douloureuses qui se sont passées dans nos vies, même s'il y a des relations conflictuelles avec nos parents, eh bien, ils nous rendent capables d'aimer l'autre. Ils nous rendent capables de surmonter ces blessures. Dieu veut nous restaurer pour nous rendre capables d'aimer comme lui a aimé. Et puis quand je parle de cet amour de père, ce n'est pas réservé à vous, messieurs. Hein. C'est aussi pour vous, mesdames. On parle de père, mais on voit aussi que Dieu, quand il va parler à plusieurs reprises de son peuple, il va dire mais qu'il l'a engendré, qu'il en prend soin comme d'une mère. Et je crois dans notre vie, si on veut témoigner de qui est Dieu, on doit témoigner de cet amour qui accueille l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, peut-être encore plus particulièrement avec les gens qui sont proches. Est-ce qu'on va être capable d'accueillir nos enfants tels qu'ils sont? Est-ce qu'on va être capable d'accueillir notre famille telle qu'ils sont? Nos amis, nos collègues? Et ça, eh bien, si la réponse est non, ce qui risque d'être, en tout cas pour moi, je sais que je vais pas y arriver, je me dis, mais si Christ vient en moi, ben peut-être que moi je ne vais pas arriver. Mais Christ qui vient en moi, il va y arriver. Et aimer l'autre, et être témoin de Dieu, de l'amour de Dieu, ce n'est pas devenir parfait. On n'est pas en train de dire, hé, j'ai trouvé la solution. On est en train de dire, non. La solution, elle habite en moi. Ce n'est pas moi qui suis parfaitement l'image de Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Être image de Dieu, ce n'est pas dire qu'on ne va jamais se tromper. Mais ça veut dire que, quelle que soit l'erreur de l'autre et quelle que soit notre erreur, eh ben on va pouvoir avoir cette capacité de continuer à aimer comme Dieu nous a aimés. Et quand je pense à ce que Dieu il a accompli en Jésus-Christ, on l'a vu, on l'a lu juste avant, je ne sais pas si vous avez tilté, que Dieu a voulu tout mettre en Christ. Peut-être je vais juste relire le verset. Toute la plénitude habite en lui. Voilà, c'est ça la formulation. Toute la plénitude habite en lui. Et ce que je trouve absolument incroyable, quelques versets plus loin, il dit, mais Christ habite en vous. Et je vous invite vraiment à accueillir cette présence de Christ dans vos vies. Que toute la plénitude de Dieu vienne habiter en vous. Je vais prier. Seigneur, nous voulons ce matin accueillir toute ta plénitude. Et nous savons que toute cette plénitude, nous n'aurions jamais été capables de la recevoir si tu ne l'avais pas mise en Christ. Et en Christ, tu nous réconcilies avec toi. En Christ, tu nous réconcilies avec nous-mêmes. Tu viens guérir nos blessures les plus profondes. Tu viens restaurer notre identité. En Jésus, tu nous montres cet amour de Père et tu veux venir faire habiter cet amour en nous. Seigneur, viens guérir les blessures du passé. Et quelle qu'était notre vie jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui nous voulons faire le choix de marcher avec toi et que tu nous rendes capables d'aimer l'autre tel qu'il est. Seigneur, nous n'arriverons pas à donner un sens à notre vie si tu ne viens pas habiter en nous. Et nous voulons maintenant te laisser dans nos vies toute la place. Nous te prions par ton esprit de nous unir à toi, de nous unir à Christ. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu nous as promis que la réconciliation se trouvait en lui et que par lui, tu nous donnais d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Seigneur, nous avons besoin de cette connexion avec toi et nous te demandons qu'elle soit davantage présente dans la suite de nos vies. Amen.